Un cancer, 150 000 de ses parents. Outre les procédés classiques, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, il existe des traitements qui n'ont pas eu l'impact qu'ils auraient pu ou dû avoir. Le professeur Mirko Beljanski, décédé en 1998, était docteur en sciences, directeur de recherche au CNRS, auteur de 133 publications scientifiques. Il avait mis au point avec son épouse des traitements comportant des produits d'origine végétale, non toxiques, capables dans un premier temps d'inhiber le développement des cellules cancéreuses et dans un second temps de détruire les cellules anormales. Alors qu'avait-il découvert? Dans quel contexte? Comment agissent ces produits? Pourquoi ne sont-ils pas commercialisés en France? Monique Beljanski, ingénieure de recherche au CNRS, épouse du professeur Mirko Beljanski, a travaillé à ses côtés. 23 ans à l'Institut Pasteur, 10 ans à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, elle est l'auteur de 3 ouvrages. La santé confisquée, écrit avec Mirko et publié aux éditions Guitre et Daniel. Mirko Beljanski, chronique d'une fatwa scientifique aux éditions Guitre et Daniel également, et écrit avec Claudine Nordeau. Beljanski, un novateur en biomédecine. Monique Beljanski va partager avec nous son parcours, les recherches, les découvertes avec Mirko, le travail des Natural Sources aux États-Unis, le laboratoire. Monique Beljanski,
bonjour. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était le professeur Beljanski?
Tout à fait. J'ai connu Mirko Beljanski en 51. C'était un étudiant venu de Yougoslavie, de Serbie. Pour être plus exact, il venait de passer son baccalauréat. Il était très attiré par la France. La France était très aimée dans les Balkans autrefois. Je dis autrefois parce que malheureusement, avec la politique actuelle, les bombardements de l'Europe centrale, que je ne digère pas d'ailleurs, ont gaspillé, complètement tué ce potentiel de sympathie. Et quand je suis allée pour la première fois en Yougoslavie, donc en 51, tous les vieux du village venaient me raconter leur guerre de 14 avec énormément d'amitié, d'affection et de bons souvenirs pour la France. Et tout ça, c'est gaspillé, c'est perdu sur l'autel d'une politique imbécile, que je considère comme imbécile. Ceci dit, donc j'ai rencontré Mirko qui est venu à Paris en 47. Juste à la fin de la guerre, il a profité d'une bourse donnée à des étudiants pour pouvoir faire leurs études. Et il a fait toutes ses études supérieures en France. Il était passionné du mécanisme d'action, c'était un biologiste biochimiste, c'est-à-dire qui s'intéresse aux mécanismes qui régissent les lois de la biologie. Et nous nous sommes mariés en 51. Moi, je sortais du lycée, je n'étais pas très scolaire, pas très sérieuse dans mes études, mais j'ai eu le coup de foudre pour ce très beau garçon. Et il m'a dit, je souhaiterais que tu viennes travailler avec moi. Et alors, j'ai fait une école de technicienne de laboratoire, parce que sinon, je n'aurais pas pu rentrer au CNRS. Donc, c'est une école qui permet de... qui est destiné à préparer les gens pour faire des analyses médicales. Et puis quand je suis arrivée à l'Institut Pasteur, en 53, son patron, qui était à l'époque Michel Machebok, qui était un brillant biologiste, m'a gentiment accepté. À l'époque, Mirko, comme il était jeune étudiant et qui venait juste de passer son doctorat d'État, n'avait pas encore le droit d'avoir une technicienne attitrée. Et très gentiment, le directeur de l'Institut Pasteur, qui était un ami de ma grand-mère, qui était une chimiste, a dit « c'est tellement important qu'une femme puisse travailler avec son mari, je vais vous prendre comme ma technicienne et vous laisser travailler avec votre mari ». Je dois dire que j'ai eu énormément de chance. Et depuis donc 1953 jusqu'à 1978, nous avons travaillé ensemble à l'Institut Pasteur. J'ai épousé Mirko parce qu'il était très beau garçon. Et j'ai découvert à la suite de ça que c'était un homme remarquablement intéressant. intellectuellement, et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en général, les découvertes qu'on fait après le mariage sont moins heureuses que ça, et vraiment, c'est quelqu'un qui a donné un sens tout à fait inattendu à ma vie, et pour qui j'ai une dette de reconnaissance énorme. C'était fascinant de travailler avec lui, parce que c'était un esprit toujours agile, toujours désireux de comprendre les mécanismes, extrêmement attentif, très passionné, et qui avait le goût que les gens qui travaillaient avec lui aient du plaisir dans le travail, ce qui n'est pas fréquent. Et c'est pas seulement parce que j'étais son épouse, mais d'autres qui sont venus travailler avec nous, il avait la même attitude de générosité, de partager cet amour qu'il avait de la science.
Qu'il a découvert alors?
Il a découvert beaucoup de choses. D'abord, pendant 30 ans, c'était de la recherche fondamentale. Il n'a jamais cherché à trouver des produits médicaux. Il est essentiellement connu pour des produits médicaux. Mais le but de toute cette recherche, c'était de comprendre la nature. Et faut dire qu'elle est tellement, tellement merveilleuse, tellement sophistiquée, tellement intelligente, si on pourrait dire, qu'il y avait beaucoup à faire. C'était le début des années 53-54. Il faut se rappeler qu'on connaissait peu de choses sur les enzymes, on ne connaissait même pas le code génétique qui a été découvert au moment où nous sommes revenus d'Amérique. Là, je dois faire un petit retour en arrière. Donc, en 53, j'ai intégré le laboratoire de Majboeuf. Majboeuf était un brillant biochimiste, mais le malheur, qui aimait beaucoup Mirko, et Mirko aimait beaucoup son patron, mais ce patron avait été gazé à la guerre de 14, il a développé un cancer du poumon, et il est mort l'année suivante, si bien que le laboratoire a été repris, pour notre malheur, par Jacques Monod. Jacques Monod était quelqu'un de très brillant, très intelligent, mais un homme de système. Et bon, il a eu au début beaucoup d'argent, et pendant qu'il avait beaucoup d'argent, il a voulu restructurer entièrement, et son mari en avait besoin, le laboratoire l'Institut Pasteur, qui était vieillot et pas adapté aux méthodes modernes. Et nous avons profité de cette période pour partir aux États-Unis. Nous avons passé 12 ans et demi dans le service de Severo Ochoa, qui était un brillant biologiste, biochimiste, d'origine espagnole, fixé aux États-Unis. Il a eu le prix Nobel pour avoir démontré la synthèse possible de novo, c'est-à-dire sans matrice, d'un ARN. C'est très important, cette histoire de synthèse sans matrice, parce que actuellement, on sait faire synthétiser des ARN, on sait synthétiser des ADN, mais il y a toujours une matrice au départ. Autrement dit, on fait une photocopie, on fait une copie de ce qui existe. Mais la question est, qu'est-ce qui a été la première fois et comment ça a été? Et Ochoa a pu, il a eu le prix Nobel, je viens de le dire, dans les années 58 ou 59, je crois, il a eu... un ARN sans matrice en présence de magnésium. Et je voudrais qu'on retienne cette chose-là parce que j'y reviendrai tout à l'heure à la fin de mon exposé. Donc nous avons passé 2 ans et demi à New York, dans son laboratoire à NYU. J'ai eu ma fille pendant ce temps-là. C'est important de le dire parce que le fait qu'elle soit née à New York faisait qu'elle était américaine de naissance, et comme c'est elle qui maintenant poursuit les recherches et le travail de Nature Ressources, si vous voulez, c'était un plus important à l'époque qu'elle soit américaine. On n'avait pas fait exprès, évidemment. Tu as proposé à Mirko de rester aux États-Unis, lui avait offert des postes importants, mais Mirko aimait beaucoup la France. Et il souhaitait que nos enfants, j'étais enceinte du deuxième bébé, quand nous sommes revenus, quand la bourse a expiré, que nous avons décidé de rentrer en France. Et puis nous aimions beaucoup mes parents, aussi bien Mirko que moi-même, qui nous ont toujours soutenus, même dans nos combats les plus difficiles avec l'intelligentsia française. Et donc nous sommes rentrés en France, nous avons retrouvé le laboratoire qui était devenu le laboratoire de Jacques Monod, patron que nous n'avions absolument pas choisi, qui s'est imposé par un concours de circonstances, et chez qui nous sommes restés jusqu'en 1978. Pourquoi est-ce que nous sommes restés si longtemps dans ce laboratoire sans s'entendre du tout avec Jacques Monod? J'y reviendrai. Parce que c'était le seul endroit où nous pouvions avoir toutes les conditions de travail. Il avait de l'argent de partout, du CNRS, de l'INSERM, de l'Amérique, ça arrivait de toutes parts, et c'était un laboratoire extrêmement bien équipé. Or, en biologie, on a besoin de beaucoup de matériel, on a besoin de milieux de culture, on a besoin d'autoclaves, on a besoin de centrifugeuses, on a besoin de beaucoup de choses, et il y avait donc une infrastructure qui nous permettait exactement de faire le genre de travail qui nous intéressait, que nous n'aurions jamais pu avoir ailleurs. Et plusieurs fois, l'atmosphère étant irrespirable, je vais y revenir, je disais à Mirko, mais pourquoi est-ce qu'on ne quitte pas? Et il me disait, mais si on quitte, on n'aura pas d'argent, on ne pourra pas faire, on aura peut-être un climat agréable, mais on n'aura pas les conditions pour avancer le travail. Et c'est le travail, c'est ce qui est le plus excitant, le plus. Donc pendant 30 ans à peu près, nous avons travaillé sur le plan fondamental, c'est-à-dire sans chercher du tout à avoir des produits ou avoir un intérêt médical quelconque, mais en cherchant à comprendre et à cerner au mieux qu'est-ce qui se passait quand une cellule se cancérise. Alors comme nous n'avions à l'époque pas accès aux cellules en culture, d'abord ce n'était pas très courant à l'époque, d'une part, et puis Jacques Monod ne faisait absolument rien pour nous faciliter la vie, nous nous sommes d'abord intéressés au cancer des plantes. C'est intéressant le cancer des plantes. D'une part, on peut avoir autant de plantes qu'on veut, ça prend pas de place. D'autre part, il y a énormément de points communs. La vie est toute entièrement faite sur un même modèle. C'est saisissant. J'ai appris tout récemment, par exemple, qu'entre l'hémoglobine qui nous sert à véhiculer notre oxygène et qui est tellement importante dans notre sang, et puis je ne me rappelle plus le nom de cette molécule, enfin cette enzyme qui existe dans les plantes, mais qui fait la même chose, qui permet de photosynthétiser la lumière et donner l'énergie. Il y a un magnésium de différence à peu près. Il y a vraiment un modèle absolument commun. Vous avez des enzymes qui sont communs aux plantes et vous avez le cancer des plantes, vous avez des métastases dans le cancer des plantes, vous avez le principe qui donne le cancer des plantes n'est pas, peut-être pas toujours, encore que je ne suis pas sûre, n'est pas toujours le même que celui qui donne le cancer aux mammifères, mais le cancer des plantes a beaucoup de points communs avec le cancer des mammifères. Il y a des métastases, par exemple, et on a pu démontrer que les cellules cancéreuses synthétisent des marqueurs, exactement comme les cellules des mammifères, et que ces marqueurs induisent l'amplification et la pérennité du système cancéreux. Et Mirko s'est amusé à croiser les marqueurs des plantes et les marqueurs des mammifères et a pu montrer que dans un cas, le croisement marche parfaitement et ne marche pas dans l'autre cas. Ça veut dire qu'on a beaucoup à apprendre sur ce plan-là. Et les gens ricanaient un petit peu en disant « Beljanski, c'est pas ce qu'il veut, il travaille sur les cellules, sur les plantes, sur les mammifères et sur les plantes. » Il voulait, ce qui intéressait Mirko, c'était d'avoir une loi générale en biologie. Il ne cherchait pas un résultat précis, il cherchait à comprendre. Et comprendre, il faut, tous les matériaux sont intéressants pour comprendre ce qui se passe. Alors quand on a réussi à avoir des choses intéressantes sur le cancer des plantes, la première chose importante que Mirko a pu montrer sur le cancer des plantes, c'est que la bactérie qui est responsable de ce cancer injecte dans la plante un petit ARN. Et ce petit ARN, en présence d'hormones de la plante, arrive à induire les premières cellules cancéreuses. C'est très important parce qu'à l'époque, et surtout dans le service où nous étions à l'Institut Pasteur, c'était le service de Jacques Monod. Et Jacques Monod avait entièrement misé sur l'ADN. On appelait à l'époque le dogme central de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN détenait absolument toutes les informations et tout devait aller de l'ADN vers les ARN et vers les protéines. Or, à partir du moment où vous aviez un ARN qui induisait le cancer de la plante, c'est-à-dire qui imposait à une plante un autre message que le message qu'elle avait, c'était déjà un scandale. Et je me rappelle quand Mirko a fait une conférence un jour à l'INRA, il a été absolument agressé, il n'y a pas d'autre mot, par des jeunes de l'INRA, disant comment vous parlez d'un cancer de la plante. Il n'y a que les ADN ou les plasmides, c'est-à-dire des ARN circulaires, qui peuvent donner le cancer de la plante. Et c'est faux. On avait pu montrer que des bactéries qui n'ont pas de plasmides peuvent donner le cancer par le biais des ARN. Et plus tard, nous avons même, et ça c'est presque une anecdote un peu drôle, nous avons pu prendre des ARN de foie de lapin et selon la nucléase, c'est-à-dire une enzyme qui est capable de découper de certaines façons un ADN, on peut obtenir des petits fragments, les uns qui induisent le cancer de la plante, d'autres qui l'inhibent, selon la façon dont ils sont découpés. Et ça, c'est très important pour l'avenir aussi, parce que nous avons aussi, nous, des nucléases, et nous avons à l'intérieur de notre organisme des métaux et d'autres molécules qui peuvent infléchir l'action des nucléases et les forcer à travailler contre ce qui est la bonne santé de notre individu. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, si je n'oublie pas, et vous me rappellerez au cas où j'oublierai. Donc on a travaillé beaucoup sur le cancer des plantes. Entre-temps, cherchant à comprendre la différence entre un cancer, qu'est-ce qui différencie une cellule porteuse d'un cancer, d'un ADN cancéreux, ou une cellule porteuse d'un ADN normal, nous avons isolé, purifié hautement ces deux types d'ADN et nous avons pu voir que les ADN des cellules cancéreuses systématiquement et toutes, toujours, avaient une légère déstabilisation. Ce que je veux dire par déstabilisation, vous savez qu'un ADN est formé d'une chaîne de double brin reliée par des liaisons hydrogènes. Eh bien, dans les ADN, les ADN de cellules normales, saines, sont toujours bien stabilisés, alors que les ADN de cellules cancéreuses présentent des zones ouvertes et qui ne sont pas tout à fait resserrées par rapport, c'est-à-dire que les liaisons hydrogènes entre les deux brins sont coupées ou sont distendues par endroits. C'est très important parce que on sait, ça ce sont des données tout à fait classiques, on sait que pour exprimer les gènes qui sont situés sur un ADN, l'ADN doit s'ouvrir et se refermer. Mirko disait il respire, il s'ouvre et se referme, et quand il s'ouvre, les enzymes ont accès à différents sites pour pouvoir synthétiser, répliquer ou prendre les messages sur les gènes qui sont situés sur ces zones ouvertes. Et ensuite, dès que c'est fait, l'ADN se referme. Mais dans le cas d'un ADN cancéreux, il se referme mal ou pas. Donc, les messages sont un peu différents. Ils sont plus riches ou ils sont plus variés du fait que l'ADN reste ouvert. Et Mirko s'est rendu compte, moi aussi, puisque je travaillais avec lui, que dès qu'on met un ADN isolé, purifié, imaginez maintenant un tube à essai, vous mettez uniquement un ADN purifié, dans un cas un ADN sain, dans l'autre cas un ADN cancéreux, et vous mettez un cancérogène de référence, un vrai cancérogène en présence de cet ADN, qu'est-ce que vous observez? Immédiatement, l'ADN cancéreux s'ouvre, et beaucoup, alors que l'ADN normal ne s'ouvre presque pas. Donc, ils ne répondent pas physiologiquement de la même façon. Nous avons isolé des centaines d'ADN de cellules saines et cancéreuses. C'est toujours systématiquement l'ADN cancéreux est légèrement déstabilisé par rapport à l'ADN sain de 2 ou 3%, mais en présence présence d'un cancérogène ou d'un potentiel cancérogène, parce qu'il y a des cancérogènes qui ne sont pas reconnus comme cancérogènes, mais qui sont quand même cancérogènes, vous avez immédiatement une déstabilisation si c'est un ADN cancéreux. Et c'était tellement systématique, tellement joliment systématique, il n'y a pas d'autre terme, que Mirko a décidé de faire un test qu'il a appelé l'oncotest. Ce test était destiné à rechercher les potentiels cancérogènes, même quand ils ne sont pas considérés comme des cancérogènes. On parle toujours de notre environnement qui est responsable des cancers, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des colorants, nous avons des pesticides, nous avons des conservateurs dans la nourriture, et tous ces produits, ben, certains ne sont pas dangereux, mais d'autres sont cancérogènes. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas de test vraiment précis et défini. Et on s'est dit, avec l'oncotest, on va avoir un outil extrêmement sensible et qui plus est sur le cœur de la cellule, l'ADN étant vraiment la cible ultime et la plus vulnérable de tous ces produits. Alors, nous avions donc l'oncotest. À l'époque, il y avait une polémique qui disait la rizerpine est cancérogène. Et d'autres médecins disaient, c'est pas vrai, la rizerpine n'est pas cancérogène. Avec Mirko. La rizerpine fait partie d'une plante qui s'appelle le Revolvia vomitoria et qui était utilisée à l'époque chez des femmes un petit peu agitées, nerveuses, etc. Et on disait, ça va les calmer, ça va les aider, etc. C'était un médicament à la mode. On s'est dit, on va se faire une idée personnelle. Est-ce que c'est cancérogène? Est-ce que c'est pas cancérogène? Puisqu'on a un test vraiment extrêmement précis et performant. Donc, on a passé la rizerpine dans le... Plus exactement, on n'a pas passé la rizerpine. Nous n'avions pas de rizerpine pure, mais nous avons acheté un extrait de Revolvia qui existait dans le commerce. C'était les laboratoires Servier à l'époque qui faisait, je crois que ça s'appelait du sarpagon, si je me rappelle bien. Et nous avons couru dans les pharmacies, acheté quelques cartons de sarpagon, et armé de ça, on a passé ça dans l'oncotest. Et selon la cinétique de la courbe, on s'est rendu compte qu'il y avait un mélange de produits. Alors on a décidé de purifier les produits, on a isolé d'un côté la rizerpine et de l'autre côté un produit X, on ne savait pas ce que c'était. Et la rizerpine s'est avérée effectivement être légèrement cancérogène, mais surtout l'autre produit mystérieux s'est avéré être un parfait anti-cancérogène, si j'ose dire, un inhibiteur de la synthèse d'ADN cancéreux et ne touchait pas, n'altérait pas, ne modifiait pas la synthèse d'ADN normale. Alors c'était extrêmement surprenant parce que ça montrait une spécificité inattendue dont personne ne parlait à l'époque. On disait il n'y a pas de différence entre un ADN sain et un ADN cancéreux, ce qui est une ineptie d'ailleurs parce que toute la physiologie, toute la régulation de ces cellules est différente, donc il y a des différences et c'est très intéressant d'essayer de les cerner pour comprendre comment agir justement au niveau de ces différences pour avoir quelque chose de sélectif. Le mot sélectif est très important dans la vie de Mirko. Tous les produits qu'il a mis au point sont sélectifs. Les uns pour tuer sélectivement les cellules cancéreuses ou des virus, d'autres pour promouvoir la synthèse sélective des bonnes cellules. Donc, c'était vraiment le maître mot de sa recherche, la sélectivité, l'absence de toxicité des effets secondaires. Alors quand on a eu évidemment ce premier résultat, on était très excités, incrédules, qu'est-ce que ça peut être, etc. Et on s'est procuré, on a mobilisé toute la famille pour aller courir dans toutes les pharmacies, acheter le maximum de cet extrait de plantes. Et on a commencé à purifier, isoler le produit. Et le produit s'est comporté vraiment... Donc c'était un extrait de Revolvia vomitoria, une plante qui vient d'Afrique, qui est très courante en Afrique, et on a pu isoler le principe actif, à condition évidemment de le débarrasser de la réserpine qui allait un petit peu à l'encontre du principe que nous cherchions. Alors ça a été le premier produit anticancéreux que nous avons trouvé. Et au début, on l'a conservé pour tuer les cellules cancéreuses des plantes. Et puis, comme ça marchait très bien, on s'est dit, c'est tout de même dommage de ne guérir que des plantes. On va essayer sur des cellules en culture. Puis, ça marchait bien sur des cellules en culture. On va essayer sur des souris. Puis, comme ça marchait bien sur des souris, c'est quand même bête de guérir des plantes et des souris et pas essayer d'aider les humains. Mais enfin, c'était un grand pas à franchir. Entre-temps, il fallait faire toutes les toxicités, s'assurer qu'il n'y avait aucune toxicité. Donc ça, nous l'avons fait nous-mêmes au laboratoire, parce qu'on avait une armée de souris. On avait jusqu'à 600 souris à un moment donné, quand nous avions déjà quitté Pasteur, parce qu'à Pasteur, on ne nous permettait pas d'avoir une animalerie.
Et c'est pour ça qu'en 78,
son fidèle élève François Gros, qui entre nous a plus ou moins trempé dans les histoires du sang contaminé, mais on s'est bien gardé de le juger, parce que ça fait partie des personnes qu'on ne juge pas et qui sont au-dessus de tout soupçon, nous a viré de l'Institut Pasteur. Donc, à la suite de ça, nous sommes partis. Nous avions acheté un petit laboratoire assez misérable dans la banlieue parisienne, hein, qu'on arrangeait en laboratoire. Mais à cette époque-là, il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit « Moi, je veux vous organiser un laboratoire privé. » Et Mirko a pu, pendant 10 ans, après sa retraite, travailler dans un très joli laboratoire à Saint-Prin. Il a eu 10 ans de paix avant que, de nouveau, le système vienne trouver que ses résultats portaient ombrage à beaucoup de gens, à l'industrie pharmaceutique. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique est la deuxième industrie après la vente d'armes. Ça représente un fric absolument considérable. Et les pouvoirs publics ont besoin de cet argent, du soutien de l'industrie pharmaceutique, et n'ont rien à leur refuser, si bien que même s'il faut sacrifier quelques scientifiques, c'est de peu de poids, ou quelques malades, c'est de peu de poids par rapport à l'argent que représentent les médicaments. Donc il faut tuer tous les médicaments qui n'appartiennent pas à l'industrie pharmaceutique. Il fallait se débarrasser d'ingénieurs qui avaient gêné déjà par sa personnalité, par son indépendance d'esprit, en disant que les ARN pouvaient induire le cancer, qu'il y avait une transcriptase réverse, que les produits pouvaient inhiber le cancer sans toxicité. Ça faisait trop. Il fallait se débarrasser de lui. Et on s'est débarrassé de Mirko, et comme une fois qu'il était dans un laboratoire privé, on n'avait plus beaucoup de moyens de rétorsion contre lui. Comme beaucoup de gens savent, même Mitterrand a fait appel à nos produits. Il était soigné pour un cancer de la prostate. J'ai eu l'occasion à la maison de photocopier ses radios. Il avait des métastases absolument partout. Son médecin personnel avait déclaré qu'il n'en avait que pour 2 mois, donc il y avait déjà des tas de candidats à la succession. Ça me rappelle la blague de Gaulle qui disait, quelqu'un lui demandait « Vous ne craignez pas le vide après vous ?» Il dit « Non, je crains plutôt le trop-plein. » Donc Mitterrand n'a pas directement fait appel à nous, il était soigné par un médecin de Versailles, qui était un de nos amis, qui connaissait très bien nos produits, et quand il a vu, ce médecin a vu de la façon dont Mitterrand était soigné, il a dit, mais écoutez, on peut faire beaucoup mieux, etc. Et Mitterrand a accepté à ce moment-là les médicaments qu'il lui a donnés. Et la presse, qui avait publié récemment un journal où on voyait la photo absolument cadavérique de Mitterrand, tout d'un coup, voir le Mitterrand reprendre du poil de la bête, de nouveau reprendre les rênes de son travail, avoir un visage beaucoup plus réveillé, se remettre à manger et reprendre une tête normale. À ce moment-là, évidemment, on a eu contre nous ces médecins personnels, parce que ça infligeait un démenti cinglant. Ils avaient dit « dans 2 mois il sera mort » et tout d'un coup il reprend du poil de la bête, et on apprend que c'est un produit de phytothérapie, un produit normal de plantes, etc., qui ne fait pas partie de tous les produits des médicaments habituels. Donc c'est un scandale absolu dont il faut se débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On ne pouvait pas faire grand-chose quand Mitterrand était vivant. On a attendu que Mitterrand meure. On a pu le prolonger de 18 mois, ce qui était énorme dans l'état où il était. Il avait souhaité pouvoir finir son mandat, ce qui a été possible grâce au produit Beljanski, mais après il est parti en Égypte. Je crois que son médecin, ça n'a jamais été très clair, son médecin lui l'a remis à d'autres produits, et à ce moment-là, il est mort de toute façon, personne n'est immortel, et à un moment donné, trop c'est trop. En tout cas, en 1996, profitant du décès de Menot, de Mitterrand, je veux dire, on a envoyé à Saint-Prin, au Mirko avait son don, ce laboratoire privé, on a envoyé la troupe, carrément la troupe, 200 gendarmes, GIGN, enfin c'était un cinéma absolument pas possible. Et je vais me permettre de dire quelque chose qui peut faire scandale auprès de certains, mais que je considère comme vrai, donc je dis ce que je pense, c'est qu'il n'est pas possible d'envoyer une telle panoplie de gendarmes et de gens du GIGN sans que le ministère de l'Intérieur donne son aval. Or, le médecin qui avait soigné Mitterrand était le frère du ministre de l'Intérieur, et je pense que là, il y a une petite vengeance. Il fallait se débarrasser du vilain par qui le scandale était arrivé, de la prolongation de Mitterrand. Enfin, je n'ai pas de preuve de ce que j'annonce, je dis mon sentiment personnel, mais je tiens quand même à le dire. Bon, le pauvre Mirko, la police est arrivée, a mis à sac son laboratoire, tout fermé. J'ai sauté des étapes, il faudra que je revienne en arrière. A tout fermé, lui a passé les menottes aux mains comme un malfrat, l'a ramené comme ça à Paris, en TGV, puisque Saint-Prin c'est près de Lyon. Moi, j'étais à Paris, on est venu me saisir à 8h du matin, mise en garde à vue, interrogée toute la nuit, pour me faire avouer des choses criminelles, c'est-à-dire que je fabriquais des produits destinés à aider les gens qui étaient malades. Et bon, j'ai reconnu qu'effectivement, je ne soignais pas, c'était toujours par l'intermédiaire de médecins, mais que je fabriquais des produits, que c'était mon métier, que j'avais été payé par le CNRS pour faire ça pendant 30 ans, et je vois pas pourquoi tout d'un coup, devenait criminel de continuer à faire ce que j'avais toujours fait et ce pourquoi on me payait. Mais enfin, ça gênait. Et Mirko a tellement mal pris qu'on lui supprime son laboratoire, on disperse l'équipe qu'enfin, en fin de vie, il avait réussi à se constituer, qu'un mois et demi après, il a développé une leucémie myéloïde aiguë. Il avait 75 ans, il n'avait plus ses produits, la police avait absolument raflé, était allée chez les malades chercher les produits, avait absolument tout raflé, partout où ils étaient, chez moi, à Paris, à Saint-Prin, chez les malades, tous les produits. Il n'avait plus donc aucune possibilité de se soigner, il a fait une chimiothérapie qui lui a donné un répit pendant 8 mois. Pendant ces 8 mois, il a décidé, notre fille, et qui à l'époque était partie vivre à New York, elle s'était mariée avec un Américain, et, sachant l'état de son père est arrivé, et sans doute émue par la détresse de son père, elle lui a dit « mais je te promets, je ferai tout ce qui est dans mon possible pour essayer de rétablir des produits aux États-Unis. » Donc, Mirko est décédé le 28 octobre 1998 en me disant ben, s'il n'y avait pas eu ces deux-là, c'est-à-dire sa fille et son gendre, je crois que tout mon travail aurait été foutu. Je dois dire que ma fille était avocate, son mari était avocat, et je pensais que c'était un vœu pieux d'avoir dit ça à son père. Et pas du tout, je me suis trompée. Elle a pris son rôle très au sérieux et la promesse qu'elle a faite à son père très au sérieux. Elle n'est pas scientifique, mais elle s'est remarquablement organisée avec des scientifiques et des gens dont c'est le métier d'isoler, de purifier des produits, des spécialistes, tous ISO, c'est-à-dire agréés par les normes les plus exigeantes de l'industrie pharmaceutique. Il est important de savoir aussi qu'actuellement, il y a un lobbying absolument extraordinaire de l'industrie pharmaceutique auprès de Bruxelles pour supprimer les produits biologiques. Ça gêne beaucoup, ça prend une part de marché, ce n'est pas l'industrie pharmaceutique qui a la tradition de ça. Donc, ils font des efforts absolument considérables et dépensent beaucoup d'argent auprès des responsables de Bruxelles pour faire passer des lois qui disent que dorénavant, à partir de 2011, 80% des produits biologiques naturels vont disparaître et seuls vont subsister les produits qui donnent absolument toute garantie, les garanties qui sont fixées eux-mêmes et qui sont des garanties de médicaments, en fait. Et bon, Sylvie Beljanski, qui est une avocate, a compris ça immédiatement et très rapidement, et elle se dit, donc, j'ai plusieurs années pour me mettre aux normes. Donc, aux États-Unis, ils ont fait énormément d'efforts, ils ont dépensé énormément d'argent pour se mettre aux normes de façon à être parmi les 20% de médicaments contre lesquels il n'y aura strictement rien à dire et qui, quand même, sont... qu'on sera obligé de conserver malgré toute la mauvaise volonté et tous les efforts. Bon, alors ça, je vous ai donné le cheminement général. Il y a encore deux autres produits qui ont été mis au point en cours de route et qui sont très importants. Pendant cette période, quand nous avons quitté l'Institut Pasteur, donc viré par François Gros, l'élève de Monod, nous sommes partis à la Châtenay-Malabry. Il faut savoir qu'un scientifique en France est payé essentiellement par le CNRS, c'est-à-dire Centre National de la Recherche Scientifique, mais que le CNRS lui-même n'a pas directement des laboratoires dans l'institut du CNRS, mais les gens sont payés par le CNRS pour travailler, par exemple, à l'Institut Pasteur ou dans les facultés, etc. Donc, nous étions donc délégués, détachés, si vous voulez, pendant des années à Pasteur, et puis ensuite, nous avons été 10 ans à la faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry. Et là, c'était bien parce que nous avions une grande animalerie, beaucoup de souris, qui était très important, et nous avons eu la chance d'avoir un contrat avec l'armée pour la radioprotection. La radioprotection entrait tout à fait dans le champ de nos études. Nous avions à l'époque mis au point non seulement les deux produits dont je vous ai parlé au début, le PAO et le Robol, mais également un troisième produit tout à fait innovant et intéressant. Il s'agit des ARN fragments. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer ce qui se passe. Quand un ADN est coupé, l'ADN c'est vraiment le cœur de la cellule, quand il est coupé, endommagé, ou quand il doit simplement se dupliquer, c'est-à-dire la première étape de la division cellulaire, c'est l'ADN doit se dupliquer, donner naissance à un autre ADN identique. Il y a nécessité d'avoir un petit catalyseur. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? C'est quelque chose qui n'entre pas directement dans la réaction, mais qui favorise cette réaction. C'est très connu au niveau des métaux, par exemple, l'industrie chimique utilise beaucoup de métaux. Si le métal est présent, la réaction se fait. S'il est absent, elle ne se fait pas. Mais le métal lui-même n'entre pas et ne participe pas à la réaction. Eh bien, l'ARN fragment est comme un catalyseur, c'est-à-dire qu'en présence de cet ARN fragment, la synthèse d'ADN est beaucoup plus efficace. Mais il y a une spécificité totale entre un type d'ADN donné et un type d'ARN donné. ARN, acide ribonucléique, ADN, acide désoxyribonucléique. Il y a une spécificité totale entre les deux, et nous avons au début isolé toute une batterie de petits amorceurs pour des ADN différents, des ADN de phages, des ADN de cellules nerveuses, etc. Mais Mirko, s'intéressant au cancer, voulait des ADN de moelle osseuse. Pourquoi ? La moelle osseuse, c'est le lieu où se crée l'immunité, essentiellement. Et on sait que les malades qui subissent des chimiothérapies et des radiothérapies ont leur immunité qui baisse parce que ces produits ne sont pas sélectifs. Ils tuent de préférence toutes les cellules en division rapide, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules de la moelle osseuse qui se répliquent très rapidement. Donc c'était important dans l'espoir de pouvoir apporter une aide à des malades du cancer. De stimuler la synthèse des cellules de la moelle osseuse, parce que c'est là où se forme l'immunité et les plaquettes. Les plaquettes, ce sont l'autre nom des plaquettes, ce sont les thrombocytes, et ça permet d'éviter les hémorragies. C'est très important. On sait que beaucoup de chimiothérapies abaissent une lignée de globules blancs ou des plaquettes, et que les gens à ce moment-là meurent soit d'infection parce qu'ils n'ont plus d'immunité, ils attrapent n'importe quelle cochonnerie qui court dans l'hôpital. On considère 30% à peu près de maladies iatrogènes, c'est-à-dire attrapées à l'hôpital, ce qui est énorme. C'est un millier d'essais. Donc c'était très important d'essayer de protéger les malades, et ça leur permet aussi de subir éventuellement, si besoin est, plus longtemps de chimiothérapie, parce que sinon on est obligé d'arrêter en attendant que l'immunité remonte naturellement. Or, en présence de ces ARN fragments qui sont sélectifs, on peut montrer que immédiatement la synthèse d'ADN et ensuite donc de cellules de la moelle osseuse est immédiatement relancée. Et c'était intéressant de savoir si cette relance des cellules de la moelle osseuse allait donner naissance aux produits de cette moelle osseuse, c'est-à-dire les cellules de la lignée blanche, les globules blancs, les plaquettes et éventuellement les globules rouges. Alors, pour le savoir, nous avions pris des lapins, on les a traités par la chimiothérapie. On pouvait voir que les lapins non traités mouraient en 10 jours parce qu'on donnait des doses fortes de chimiothérapie, et aussi parce que les lapins sont une espèce sensible à ce genre de protocole. Et qu'en présence de riz et d'huile, eh bien les lapins montaient, descendaient leur globule blanc parce qu'on continuait tout le temps à donner la chimiothérapie, mais ils ne mouraient pas. Ils subissaient et continuer à vivre, et on pouvait continuer comme ça indéfiniment. On a plus de 60 jours, on a pu conserver comme ça des lapins et finalement les garder en vie. Alors c'était très important donc dans la lutte pour protéger les malades qui subissaient une chimiothérapie, et c'était un complément qui est venu s'adjoindre aux deux anticancéreux que nous avions utilisés. Tout à l'heure, je vous ai dit que Mirko était le premier à avoir montré que l'information peut remonter de l'ADN, de l'ARN vers l'ADN. C'est-à-dire que quelques mois avant lui, un Américain avait montré qu'une enzyme capable de faire ce travail existait. Il avait montré ça aux États-Unis. La première année, personne ne l'a cru. On lui a fait des histoires, et l'année suivante, il a eu le prix Nobel. Mais quand Mirko a dit la même chose à son patron, Jacques Monod, ça a été un tollé, je vous interdis de publier ça. Donc Mirko a quand même publié, mais c'est tombé absolument dans une indifférence totale, personne n'a fait attention à ça. Or, c'est une enzyme extrêmement importante. D'abord, on la trouve partout, il a montré plus tard qu'on la trouvait également dans les œufs de poisson, on la trouve dans les champignons. Vraiment, c'est une enzyme générale, et ça explique aussi beaucoup de choses dans l'évolution. Parce que si l'ADN ne pouvait pas recevoir d'informations, on ne comprend pas comment l'évolution aurait pu se faire. On serait resté au stade initial et puis c'est tout. En tout cas, que ça plaise ou que ça plaise pas, il a publié, c'est tombé dans l'indifférence, mais ça a ouvert beaucoup de portes sur le plan intellectuel pour comprendre beaucoup de réactions. Alors, quand nous étions donc à la faculté de pharmacie, nous avons eu un contrat avec l'armée pour étudier la radioprotection, et il s'agissait à l'époque, le contrat spécifiait qu'on devait étudier un produit américain qui s'appelait WR2721 et qui était un produit intéressant, un très bon radioprotecteur, mais qui avait l'inconvénient d'être, on devait le garder à moins 20 degrés et l'injecter par voie intraveineuse. Or, Mirko pensait toujours, on était à une époque où on était encore sous le choc un petit peu de Tchernobyl ou d'événements imprévus comme ça, Et l'idée qu'il faille conserver à moins 20 et qu'il faille injecter par voie intraveineuse ne rendait pas l'utilisation de ce produit très facile. Alors nous avons beaucoup travaillé sur la radioprotection. Nous avions donc beaucoup de souris. On pouvait les traiter par le cobalt, toutes les doses possibles de cobalt, et étudier comment on pouvait les protéger contre ces radiations. Et nous avons pu montrer, d'une part, que les ARN fragments que nous avions pour la moelle osseuse donnaient une très bonne protection contre la radioprotection, empêchaient que les ADN cassés, c'est comme une fêlure d'os, si vous voulez, que une fêlure se transforme en cassure vraiment, que des petits morceaux migrent. Probablement, les ARN fragments ont une action sur les systèmes de réparation. On ne l'a pas vérifié parce qu'on ne pouvait pas tout faire, mais je pense que ce serait un sujet intéressant pour d'autres chercheurs à vérifier. Et qu'on pouvait avoir une très jolie radioprotection avec les ARN fragments. Et par ailleurs, on a isolé un principe à partir de ginkgo biloba, qui est un ginkgo tout à fait différent du ginkgo qu'on trouve en pharmacie. Le ginkgo qu'on trouve en pharmacie est utile pour la microcirculation, surtout des capillaires. Le ginkgo que nous préparons est préparé de façon tout à fait autre. Quand on prépare de façon autre, on a des applications tout à fait autres. Si vous partez d'une pomme, vous pouvez faire du calvados, ou vous pouvez faire une tarte tatin. C'est toujours de la pomme, mais le résultat n'est pas du tout le même. Eh bien, c'est la même chose avec les feuilles de ginkgo. Nous les prenons à une époque, nous les récoltons à une époque tout à fait différente, et on peut avoir des feuilles qui ont naturellement synthétisé des produits qui n'existent pas dans les feuilles vertes que récolte l'industrie pharmaceutique, et par une procédure d'extraction et de purification tout à fait particulière, assez longue et assez compliquée, on arrive à avoir un produit qui a des effets de radioprotection très importants. Non seulement des effets, quand je parle de radioprotection, je veux dire que très souvent les radios dermiques occasionnent des brûlures, et surtout occasionne des fibroses. La fibrose ne se développe pas immédiatement, elle se développe dans les mois qui suivent, mais elle est très invalidante. Elle cartonne, les tissus deviennent comme cartonnés, et c'est une occasion de souffrance et de danger pour les malades. Donc on s'est rendu compte qu'en présence de ginkgo, on pouvait éviter ces inconvénients. On s'est rendu compte peu à peu, en utilisant le ginkgo, que c'était un excellent régulateur d'enzymes. C'est très important de réguler les enzymes, parce que les enzymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites protéines qui construisent et qui détruisent. C'est elles qui sont en charge dans notre organisme de toutes les synthèses, et également d'éliminer les choses dont l'organisme n'a plus besoin. Quand un malade a une pathologie, en particulier je pense à la pathologie du cancer, eh bien il a des enzymes qui ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. En particulier, j'ai eu le plaisir de vérifier sur internet récemment une publication qui confirmait un résultat que Mirko avait montré il y a 25 ans, que les malades qui sont atteints de cancer n'ont dans leur plasma, c'est-à-dire dans une certaine partie du sang, des nucléases. Les nucléases, ce sont les enzymes, ce sont une certaine catégorie d'enzymes dans le sang, qui ne travaillent plus comme ils devraient travailler, et qui se mettent au service de l'ennemi, c'est-à-dire qui travaillent pour faire des amorceurs, des ARN fragments, pour les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles doivent se multiplier très vite. On sait qu'un cancer, ça se développe très rapidement. Et comme tous les ADN des cellules cancéreuses ont besoin d'amorceurs. Donc, nos ARN fragments, ceux que nous avons préparés pour les malades qu'on appelle VLBUL, ne marchent que sur les ADN des cellules normales. Et on peut comprendre que les ADN des cellules cancéreuses, ils ont besoin d'autres amorceurs. Et c'est pour ça, comme par hasard, que les nucléases du sérum des malades ne travaillent plus comme ils devraient travailler. Ils se mettent au service de l'ennemi et font des amorceurs pour justifier la multiplication rapide des cellules cancéreuses. Donc c'est très important de réguler, c'est un plus dont personne ne tient compte. Je dois dire, j'ai jamais entendu un malade ou un médecin s'occuper de ça, mais c'est très important de mettre toutes les chances de son côté. Le cancer était vraiment une sale maladie multifactorielle, et c'est très important d'essayer non seulement de tuer les cellules cancéreuses, ce que peut faire la chimiothérapie, ce que peut faire la radiothérapie, le PAO, le Revol, mais si on ne supprime pas la cause, la cause, elle peut revenir. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Alors maintenant, je vais parler peut-être un peu plus précisément des produits. Je vais les reprendre dans l'ordre. Le PAO est donc un anticancéreux. Nous nous sommes rendus compte que c'était aussi un produit très efficace contre les virus. Si vous commencez à faire une crève, une grippe, et que vous sentez les premiers frissons, etc., vous pouvez prendre tout de suite 4 PAO, 5 PAO, le lendemain matin 4-5 PAO, et la plupart du temps, ça s'arrête là. Parce que c'est au moment où le virus commence à se multiplier qu'il est le plus sensible et qu'on peut arrêter. Et le PAO est vraiment un très joli antivirus. Dans les livres que j'ai écrits, vous avez chez Prédamiel, l'éditeur français Prédamiel à Paris, vous avez 2 livres, La santé confisquée et Chronique d'une tatouage scientifique, où je raconte à peu près toute l'histoire de Mirko Beljanski. Et on parle aussi de l'activité de ces produits et de la façon dont ils se comportent dans l'organisme. Et on donne quelques témoignages de malades, des témoignages de malades cancéreux ou des témoignages de malades SIDEA. Car au moment où nous avons commencé à avoir tous ces résultats formidables pour le PAO, c'était le début du SIDA. Et comme nous savions que le PAO pouvait inhiber la transcriptase réverse. La transcriptase réverse, c'est celle qui permet au rétrovirus du SIDA de se multiplier dans l'organisme. C'est-à-dire que les ARN des virus pénètrent dans l'organisme, mais ils ne peuvent pas, par eux-mêmes, ils n'ont pas ce qu'il faut pour se répliquer, pour subsister. Ils utilisent les enzymes de la cellule qui les héberge pour se dupliquer. Et ce sont ces enzymes qui leur permettent de survivre. Or, le PAO est un très bon inhibiteur des enzymes, aussi bien la reverse transcriptase que la DNA polymérase DNA dépendante, c'est-à-dire que le PAO est un inhibiteur des virus ARN et ADN. Et nous avons eu beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup de plaisir à pouvoir donner ces produits à quelques malades qui avaient le sida déclaré et qui étaient absolument catastrophés parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'AZT. Nous n'avions pas beaucoup de résultats. Nous avions surtout des résultats sur les plantes. Encore une fois, nos chers amis les plantes, parce que les plantes sont vulnérables aux virus ARN. Et comme c'était le début du sida, qui est un virus HIV, est un virus ARN, on s'était dit ça devrait marcher dans le sida. Et c'est à ce moment-là que Gérard Védiche est venu nous dire « Je veux votre produit, je sais que ça marche sur les plantes ». Alors on était un peu ahuris, on s'est dit « Mais on ne peut pas sauter d'une feuille de tabac à vous comme ça ». Et il a dit « Je prends mes responsabilités, etc. ». Et c'était tellement spectaculaire qu'après, c'était très tentant, évidemment, de me refuser à des malades en détresse de donner ces produits. Et petit à petit, on a appris beaucoup sur les produits. Les médecins avec qui nous avons travaillé nous ont beaucoup appris parce que quelquefois, on observe des choses que nous ne pouvions pas observer ou que nous n'avions pas le temps d'observer, où chacun apporte sa quote-part. Et finalement, c'est devenu un ensemble extrêmement cohérent et très satisfaisant.
25 ans, ex-ingénieur de recherche au CNRS, elle nous explique ici le parcours et les découvertes avec Mirko. Elle est l'auteur de La santé confisquée, aux éditions Guitre et Daniel, également publiée aux éditions Guitre et Daniel, Mirko Baljanski, chronique d'une fatwa scientifique, et le dernier ouvrage, Un novateur en biomédecine, donc un ouvrage scientifique écrit avec Claudine Nordeau. Monique Baljanski, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cas, quelles sont les autres pathologies en fait concernées par les médicaments Baljanski? Vous avez parlé donc du sida, cancer?
Oui, je vous ai dit que grâce au médecin, c'est assez large finalement l'éventail. On s'est rendu compte peu à peu, parce qu'il fallait le temps du recul, le temps des certitudes, que dans la plupart des cancers, c'est un plus considérable. Il y a une synergie d'action avec la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est-à-dire que chacun a son mode d'action, mais qu'ensemble, ça permet d'aller plus loin. Ça peut s'expliquer, ce serait un petit peu long et un peu technique de vous donner le mécanisme d'action, mais c'est plus bénéfique quand il y a un cancer d'accepter de faire de la chimiothérapie en présence des produits, en présence, pas en deux temps, en même temps. Avec les produits que de le faire séparément. Cependant, si c'est un petit cancer commençant ou si c'est une crainte d'une récidive, etc., les produits seuls peuvent être agir, très bien agir. On peut aussi, à titre préventif, parce que des gens qui ont peur d'une récidive ou des gens qui ont des raisons de penser qu'ils vont avoir un cancer, par exemple, je pense aux hommes qui ont une prostate avancée, qui ont des mixtions extrêmement fréquentes ou qui ont un PSA très élevé, eh bien, on peut prendre du PAO et du ROVOL, les deux ensemble, et en général, au bout de quelques temps, les choses rentrent dans l'ordre et c'est beaucoup mieux que d'attendre et d'éviter d'avoir un cancer de la prostate qui est toujours plus difficile et plus dommageable à traiter que de le faire à titre préventif. À titre préventif, ça marche vraiment très bien. J'ai des amis âgés. Par exemple, on sait que les personnes âgées ont tendance à perdre leur immunité. C'est important de donner un RLB de temps en temps, tous les 10 jours par exemple, c'est pas la peine de forcer trop un organisme âgé, mais c'est important parce que les personnes âgées qui perdent leur immunité attrapent beaucoup de maladies et de grippe, de choses comme ça, et surtout des vaccins. Beaucoup de gens, moi je n'ai pas de raison de le savoir personnellement, mais beaucoup de gens disent que ça attaque l'immunité. Raison de plus, avant des examens, avant des mammographies, avant des choses comme ça, de faire une petite cure de RLB, de Rielbulle, pardon, c'est l'ancien nom, de faire une petite cure de Rielbulle qui protège, comme vous avez vu tout à l'heure, des cassures chromosomiques, qui protège l'immunité, et à ce moment-là, les personnes se trouvent en meilleure condition pour affronter soit des microbes dans les alentours, soit des séquelles, des examens ou des vaccinations ou des choses comme ça. Le ginkgo, nous avons vu tout à l'heure que c'était un très bon normalisateur de protéines. Vous avez les gamma GT, les transaminases, en particulier quand les gens ont des problèmes de foie, le ginkgo est extrêmement efficace. C'est quelque chose, vraiment, en peu de temps, on peut voir une normalisation des protéines qui s'accumulent et qui sont dangereuses pour l'organisme. Les médecins ont attiré notre attention sur le fait que le ginkgo était également un bon réparateur des tissus, par exemple les personnes âgées qui ont des escarres, d'être tout le temps dans les lits, eh bien ça peut les aider à mieux, plus vite récupérer, ou quand il y a des opérations nécessitées de cicatrisation, le ginkgo est efficace. Moi-même j'ai un Dupuytren's à la main, je le maintiens une fois de temps en temps. Je déteste me soigner, m'occuper de moi-même. Donc, quand j'y pense et quand ça me gêne, je prends 3 ou 4 ginkgo, ça se calme. Et ça marche pour 15 jours, 3 semaines, 4 semaines. Et ça, c'est manifestement des produits qui sont très efficaces. Le PAO donc a une double casquette anticancéreux et antiviral. Il a aussi, si on pourrait dire, un effet secondaire. Le seul effet secondaire qu'il puisse avoir, c'est d'abaisser l'interleukine 6. L'interleukine 6 est une protéine inflammatoire. On sait que dans toutes les pathologies dégénératives du système nerveux, il y a accumulation de plaques d'interleukine 6, en particulier dans l'Alzheimer. Moi, j'aurais bien voulu que des médecins se mettent à traiter un tout début d'Alzheimer très vigoureusement avec du PAO et du Ginkgo. Mais c'est aux médecins à jouer, c'est pas à moi, mais je pense que ce serait une application intéressante. Il y a un médecin à Bruxelles qui a beaucoup travaillé avec les ARN fragments et qui dit par exemple que les enfants excités et qui n'arrivent pas à se concentrer peuvent très bien récupérer une stabilité intellectuelle grâce à quelques doses d'ARN fragments. Je dis ça sous sa responsabilité, je ne suis pas médecin, je n'ai pas moi-même pratiqué ce genre de choses, mais elle persiste et signe depuis des années, et c'est une femme, Marie Aumont, une femme en qui j'ai toute confiance, très sérieuse, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire. D'autant plus qu'actuellement, j'ai vu dans la presse, j'étais à Bruxelles, donc j'ai vu dans la presse belge, que 10% des enfants, actuellement aux États-Unis, sont sous calmant nerveux parce qu'ils sont agités, ce que je trouve absolument aberrant de traiter des enfants, même s'ils sont un peu agités, par des calmants nerveux. Ça crée plus tard des zombies ou des enfants qui sont un peu désaxés. Ce n'est pas une façon de traiter des enfants. Je sais que c'est difficile pour les parents d'avoir des enfants agités, mais il faut trouver des choses beaucoup plus physiologiques et qui ne risquent pas de porter grave préjudice pour l'avenir de ces enfants. Alors maintenant, je voudrais bien, si j'ai encore le temps, dire quelques petites choses qui sont faites aux États-Unis. Donc, c'est
là tous les produits en fait, ils ont été testés par le Mirko-Majewski. C'est votre équipe qui a continué à travailler.
Tous les produits ont été mis au point par Mirko et moi-même pendant des années. Et au moment où Mirko était sur le point de mourir, Sylvie a décidé de reprendre le flambeau. Nous passions notre temps au téléphone à faire des conférences téléphonées avec des spécialistes là-bas pour leur expliquer toutes les méthodes de préparation, de purification, attirer l'attention sur ceci, sur cela. Et ils ont démarré donc en 96. Ça va être cette année, fin octobre, on va fêter à New York les 10 ans de Natural Source. Et je dois dire que je n'aurais jamais imaginé que deux avocats arrivent à faire un aussi beau travail et que je suis impressionnée par ce qu'ils ont fait. Ils ont continué, évidemment l'Amérique est un pays infiniment plus libéral que la France et où on peut faire des choses même si l'industrie pharmaceutique n'aime pas beaucoup les produits naturels pour les mêmes raisons qu'en France. Mais malgré tout, il y a un grand engouement du public pour les produits naturels. On peut les utiliser dans certains hôpitaux. Et nous avons actuellement une clinique en cours sur la prostate. Alors je dois dire dans l'hôpital le plus prestigieux de New York, Columbia, il y a un service de médecine holistique entièrement dévoué à la prostate. Et ils ont accepté de faire une clinique avec nos produits. Mais avant de faire cette clinique, ce qui est tout à fait normal, au lieu de nous croire sur parole quand on leur a dit que les produits étaient efficaces et sélectifs contre les cellules cancéreuses, ils ont voulu vérifier d'eux-mêmes. Donc ils ont repris tout, ça a pris 3 ans, ils ont tout repris depuis le départ. Ils ont utilisé les produits contre des cellules cancéreuses en culture. Ils ont montré que le PAO et le Revol détruisaient les cellules cancéreuses. Ils ont ensuite fait des souris. Et d'ailleurs, ce soir, j'aurai l'occasion de présenter quelques-uns de leurs résultats. qui confirme tout à fait les résultats que nous avions eus il y a 20 ans, 25 ans avec Mirko, sur des souris à qui on a greffé des cellules cancéreuses de la prostate, puisque c'est un service entièrement dédié au cancer de la prostate. Ils sont allés plus loin que nous dans la mesure où ils ont pu montrer que le PAO inhibait les cellules cancéreuses par le biais de l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules, tandis que le Revol inhibe les cellules cancéreuses par le biais d'une interaction avec un des cycles de duplication de la cellule cancéreuse. C'est-à-dire que les deux mécanismes étant différents, on peut comprendre la synergie, c'est-à-dire pour la nécessité d'utiliser à la fois PAO et Revol. Chacun agit à son niveau et en utilisant les deux, on a deux modes d'action sur une même cellule pour la ratatiner et s'en débarrasser. Alors on est très content. On a aussi à Chicago une clinique en cours sur les ARN fragments. Alors au début, un peu naïvement, j'avais rencontré le responsable de cet essai clinique, qui est un hospitalier, et il disait on est vraiment déprimés, nos malades meurent du traitement, etc. Nos malades meurent. Alors naïvement, j'ai posé la question, ils meurent du traitement ou ils meurent de la maladie? Ils meurent du traitement. Et alors, quand ils ont commencé avec les ARN fragments, ils nous ont écrit un premier fax, absolument. Mais c'est merveilleux, nos malades ne meurent plus. Bon, ça me paraissait pour nous, mais le moins qu'on puisse espérer. Et puis après, ils ont envoyé des fax, ils ont dit qu'ils étaient absolument stupéfiés par les résultats. Ils ont écrit, malheureusement, moi j'ai pas les diapos, nous venons de les présenter avec mon gendre à Lyon, à Genève et à Bruxelles. On a eu l'occasion de faire trois conférences, mais il avait son lot de projections, et moi je n'ai pas les mêmes, malheureusement, mais il pouvait montrer qu'ils avaient des résultats spectaculaires, et en particulier, il disait, l'industrie pharmaceutique tuerait pour de tels produits. Je veux dire qu'elle a déjà tué, et elle a tué Mirko. Qu'est-ce que je peux dire encore?
Le travail continue, est-ce qu'il y a des nouvelles recherches?
Alors tout à fait, il s'intéresse aussi, Mirko s'était déjà préoccupé de ça, de faire la synthèse des produits, parce que à l'époque on disait, un jour ou l'autre, c'est possible que les arbres de la forêt amazonienne disparaissent, il n'y a pas beaucoup de bons PAO, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et alors ils se sont occupés de faire aussi une culture, un développement durable, de petits PAO. Il y a des pépinières de PAO qui sont plantées. Chaque année, ils plantent 300 PAO. Et ce soir, j'ai quelques photos de cette petite pépinière à vous présenter. À New York, ils ont organisé une fondation Beljanski. Donc, ils m'ont gentiment bombardé président. Je ne suis pas une présidente très excellente, parce que l'administration et tous les produits, tout ce qui concerne ce genre de choses, ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais ils font un travail vraiment dont je suis extrêmement fière et très profondément reconnaissante. Et la seule chose que je regrette, c'est que Mirko Beljanski ne soit pas là pour savoir comment ça, les choses se développent. Et je veux quand même terminer en disant que je ne pardonnerai jamais à la France ce qu'elle a fait à Mirko. Parce que Mirko était vraiment quelqu'un de propre. J'ai travaillé 44 ans avec lui. Je n'ai jamais vu une trace de médiocrité en lui. C'était quelqu'un de passionné, de généreux, de gentil, de difficile un peu de caractère. Mais c'était quelqu'un dont la France aurait dû être fière au lieu de le massacrer comme elle l'a fait. Ça passe pas. Voilà.
Comment on fait, nous, en France, pour avoir accès aux produits Beljanski?
Alors, il y a énormément de compagnies qui font des faux produits Beljanski, et ça, je trouve ça scandaleux, d'une part, parce qu'ils n'ont investi aucune recherche, Deuxièmement, parce qu'ils exploitent le nom de Petchanski contre toute déontologie. Et troisièmement, parce qu'ils font des produits qui n'ont pas la qualité. Je vous ai dit, les États-Unis se donnent énormément de mal pour que tout soit ISO, tout est contrôlé au moins quatre fois avant les plantes quand elles arrivent, les produits en cours d'extraction, les produits avant d'être encapsulés, après encapsulation. Or, les gens qui font des faux produits, j'en ai analysé beaucoup, ne font pas du tout cet effort et donnent des produits qui sont beaucoup plus médiocres. Et en plus, ils ont le manque de correction, d'utiliser nos tirés à part, nos résultats. Par exemple, récemment, il y en avait un qui disait les résultats à New York, à Columbia, et qui les présentait comme si c'était fait avec leurs produits. Donc, c'est une arnaque vis-à-vis des malades, c'est une arnaque vis-à-vis de Natural Source, et je n'admets pas ça, je trouve ça vraiment scandaleux de se comporter comme ça. Mais enfin, c'est comme ça, il y en a en Suisse, il y en a en Belgique, il y en a en Espagne. Donc méfiez-vous, les seuls vrais produits Petchanski qui sont authentiquement contrôlés, vérifiés, c'est pas commercial ce que je vous dis, c'est parce que je ne veux pas que le nom de Petchanski soit adapté à des produits qui ne sont pas conformes, c'est les commander aux États-Unis. Alors, vous avez un site internet, www.belchanski.com, et vous avez donc vous avez déjà beaucoup de renseignements sur ce site. Et vous avez aussi Natural Source, alors il ne faut pas oublier qu'il y a un décalage de 6 heures. Vous faites 00 1 212 308 70 66, et vous avez donc vous appelez de 15h à minuit à peu près, et vous avez toujours des gens très gentils, compétents, qui peuvent vous donner un médecin sur votre région qui connaît les produits ou qui est censé les connaître. Ces gens parlent français, tout le monde parle français à Natural Source ou en anglais si vous voulez, mais enfin vous avez le choix. Et puis alors vous avez Siris aussi. Siris, c'est une organisation de malades qui a fait énormément pour faire connaître les produits de Petchanski. C'est le premier malade du sida, Gérard Wedlich, qui a été d'un dévouement absolument total parce qu'il s'est sorti lui-même d'affaires. Il a voulu que le maximum de gens aient l'occasion de se sortir d'affaires.
Dans le numéro de l'association de malades, donc Siris, le 05 46 75 39 75. 05 46 75 39 75. Donc je répète les sites internet, vous avez les www.belchanski.com. Belchanski, B-E-L-J-A-N-S-K-I. Donc belchanski.com. Le laboratoire aux États-Unis, donc c'est Natural Source. Le numéro de téléphone, donc appelé entre à partir de 15h jusqu'à minuit, donc il parle français, 001 212 308 70 66. Et le site internet donc de l'association, les www.siris.com. Et il y a également un rendez-vous.
Et puis, chaque année, Siris organise une réunion qui est très intéressante. Ça se passe à Sainte, en Vendée, le premier week-end de septembre, chaque année, depuis 10 ans déjà maintenant. C'est une réunion où médecins et malades échangent leurs impressions sur les produits. Et c'est très important pour un malade de voir d'autres malades qui ont la même pathologie, qui se sont traités par les produits. Ça les rassure, ça les encourage, et c'est et en plus extrêmement sympathique. C'est un pique-nique, et ça, vous aurez tous les renseignements auprès de Siris. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je crois qu'on a bien fait le tour du problème. Je vous remercie en tout cas de me donner l'occasion de parler de toute cette belle aventure qui fait l'objet aussi de plusieurs livres. Vous avez chez l'éditeur près d'Amiel, à Paris. Vous avez... moi, j'ai écrit deux livres qui sont « La santé confisquée » et « Chronique d'une patois scientifique ». Vous avez le monsieur Le Perlier qui a écrit un très beau livre sur l'aventure de monsieur Wedlich, justement.
Un survivant
illégal, voilà. Et puis, vous avez le livre de Pierre Lance qui est intéressant aussi. Il y a deux volumes, je crois, sur les scandales de santé, la façon dont souvent, malheureusement, sont traités les savants ou les gens qui apportent une contribution importante dans la science. Voilà. Merci.
Merci à vous.
Je vous en prie.
Si vous souhaitez commander une copie de cette émission ou tout simplement en savoir plus sur nos productions, vous pouvez contacter Corinne au 08 73 85 11 74, 08 73 85 11 74, ou vous rendre directement sur le site internet www.fondation-patois.fr.